Ça fait quelques heures que vous travaillez. Et au moment où vous terminez votre session, l'ordi vous demande si vous voulez enregistrer le document. Vous êtes un peu fatigué et vous pensez que l'ordi vous demande si vous voulez imprimer votre document. Et donc vous cliquez sur non. Et en une seconde, votre travail de plusieurs heures disparaît. Que ce soit ça ou une panne de courant qui est venue au mauvais moment, ou peut-être un mail envoyé à la mauvaise personne. On a tous vécu des moments gênants. Et ça tombe bien parce que aujourd'hui, je vais parler de nos échecs. Quelqu'un peut-être va me dire, mais Paul, tu as fait une étude biblique sur les échecs en 2017. Je vous félicite pour votre bonne mémoire, mais sachez que je ne vais pas utiliser la même approche en parlant aujourd'hui du même sujet. J'ai voulu intituler ce message « Comment bien échouer dans la vie ?» Mais ce serait peut-être mal compris. Dieu ne nous demande pas d'échouer, d'accord ? J'ai préféré le titre « Comment revoir nos erreurs à la lumière d'un Dieu souverain ?» Comment revoir nos erreurs à la lumière d'un Dieu souverain ? Bien entendu, dans un sens, notre vie est une énorme réussite. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. J'ai trouvé ma raison d'être. Je sais pourquoi je suis là, je sais où je vais. J'ai une espérance sûre. Jésus est mon divin berger. Que mon âme se réjouisse. Ma vie sera éternelle. Comme Paul l'a écrit, je pense que tout chrétien peut le dire, Christ est ma vie. Mourir m'est un gain. Je peux tout perdre, mais je gagnerai Christ. Toutefois, je parle de la vie présente aujourd'hui avec ses difficultés, avec ses épreuves et avec ses échecs. Je ne parlerai pas aujourd'hui des péchés. Les autres dimanches de l'année, nous avons prêché sur le péché et j'espère que vous savez que le pardon peut être recherché, doit être recherché auprès de Dieu pour nos péchés. Je ne nie pas du tout cela et je ne suis pas en train de changer ce message aujourd'hui. Mais je ne parle pas de péché. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui, c'est un peu moins grave, des expériences qui sont causées par notre maladresse ou notre manque de maîtrise. Certains échecs sont reliés à notre santé. Un homme qui travaillait en tant que charpentier sur un toit, au haut d'une échelle, et puis il glisse et il tombe sur un pic, un clou, qui va transpercer son intestin, qui a épargné son dos, mais a transpercé son intestin. Subitement. Un problème grave. Certains échecs sont professionnels ou financiers. Je connais une femme qui travaille dans le secteur bancaire et qui a fait perdre 1 million à un client en un jour. J'imagine la difficulté de cette conversation au téléphone. Ah, votre million. Oui, alors. Certains échecs sont dans le domaine familial. Un homme missionnaire, très droit, voulait bien éduquer ses fils, mais a vu ses fils grandir, et à l'âge adulte, ils se sont mêlés tous les deux à des histoires de drogue. Tous les deux ont fait de la prison. Et on imagine le genre de questions que ce père s'est posé, n'est-ce pas ? Alors ce qui relie ces histoires d'échecs, ce sont que ces histoires sont vraies, des exemples que je connais, mais aussi elle concerne des chrétiens. Des chrétiens vivent des échecs. D'autres échecs sont dans le ministère. Et parfois, c'est vrai que c'est une ambition personnelle qui est frustrée. J'ai un dossier plein de projets qui n'ont jamais abouti. Mais parfois aussi, nous voulons faire quelque chose de beau. Et pourtant, ça ne marche pas. J'ai un catalogue de personnes à qui j'ai dit l'évangile sans qu'elles ne se convertissent. Des gens qui ont reçu mon enseignement, qui ont fini par ne rien vouloir savoir. Des gens qui ont quitté l'Église en disant que c'était à cause de moi. Vous avez échoué, vous aussi, alors vous n'êtes pas seul. Il ne faut pas faire un sondage pour savoir que, statistiquement parlant, 100% des gens ont vécu des échecs. À un moment ou un autre, dans un domaine, ou un autre. Je ne sais pas ce que c'est pour chacun de vous. Mais comment est-ce qu'on peut se remettre d'un tel échec ? Comment est-ce qu'on peut se remettre d'un tel échec ? Ben, d'abord, reconnaissez la souveraineté de Dieu. On va ouvrir la Bible aujourd'hui et on va un peu voyager à travers la Bible. On va voir différents textes. J'espère que vous serez habiles pour trouver vite les passages dans la Bible. On va commencer par le livre de Job. Parce que Job était quelqu'un qui a beaucoup souffert. C'était un homme riche, un père de famille nombreuse. Il était dévoué à Dieu. Quand subitement, il a été affligé par une série d'événements catastrophiques. Et Job exprime son désarroi. Mais au chapitre 1, il affirme aussi sa foi. Job a cru en Dieu, malgré tout. Job, chapitre 1, on commence par là, versets 20 et 21. Job se leva alors, déchira son manteau et se rasa la tête. C'est un signe de deuil par rapport à ce qu'il venait de vivre. Il avait perdu ses enfants. Puis il se jeta par terre, se prosterna et dit, « C'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère et c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Ce qu'il reconnaît là, c'est que ce que nous avons, c'est par la bonté de Dieu. On n'est pas né avec. C'est un don. L'Éternel a donné. C'est parce que Dieu nous a donné quelque chose qu'on l'a eu. La vie n'est pas notre œuvre. Elle vient de Dieu. Alors la perte que nous expérimentons est réelle. Mais elle n'est pas une raison d'abandonner Dieu, ni sa bonté. Et donc au verset 22, dans tout cela, Job ne pécha pas, il n'attribua rien d'inapproprié à Dieu. Il n'a pas accusé Dieu de faire quelque chose de scandaleux. Chapitre 2, les choses deviennent encore plus graves. Job sera atteint dans son corps, il devient malade. Et au verset 10, il parle à sa femme et il lui répondit, « Tu tiens le langage d'une folle, nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'accepterions pas aussi le mal ?» Dans tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Alors attention, ici le mot « mal » qui est utilisé n'est pas le même mot que « péché » quand il dit que Job ne pécha pas. Il n'est pas question de péché, Dieu ne fait pas de mal. C'est plutôt un mot qui est utilisé pour décrire ce qui est nuisible à la vie, que ce soit la mort, une atteinte à notre santé ou un autre échec. Ce dont Job parle est quelque chose de pénible qui vient de Dieu. Et ça fait mal. Mais ce n'est pas mal dans le sens éthique. Job, donc, n'a pas péché dans ses propos en disant que le mal ou ce qui fait mal vient de Dieu aussi bien que ce qui nous fait du bien ou ce qui nous fait plaisir. Alors Dieu décide de nous envoyer de l'adversité, des difficultés, parfois même des catastrophes, sans pourtant abandonner sa bonté. On peut penser à d'autres exemples, n'est-ce pas, dans la Bible. Daniel et ses trois jeunes compagnons qui ont été déportés, des prisonniers des guerres, des otages probablement, on les appellerait aujourd'hui. Une situation catastrophique. Et ils n'étaient pas coupables, mais Dieu était présent avec eux. Ou souvenons-nous avant de Joseph, haï par ses frères, vendu en esclavage. En fait, vendu en esclavage, c'était moins pire, moins grave. Ce qu'il voulait faire, c'était le tuer. Mais il n'avait rien fait de mal. C'était les frères qui avaient des mauvaises intentions, n'est-ce pas ? Par après, Joseph a vu la main de Dieu. Il a dit que Dieu l'a envoyé avant eux pour leur permettre de subsister dans le pays. Alors nous apprenons que à travers la souveraineté de Dieu, on peut voir nos souffrances et nos échecs différemment. Mais certainement, nous apprenons dans nos échecs que nous ne sommes pas Dieu, tout simplement. Nous ne pouvons pas accomplir nos projets, ce que nous voulons, mais Dieu peut accomplir tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il requiert, il va le faire. Alors, en tant que créature, nous devons apprendre que nous sommes soumis. Nous ne sommes pas souverains sur notre vie. Nous ne pouvons pas être tout ce que nous voulons. Nous dépendons de lui. Et en fait, ce n'est pas une mauvaise leçon à apprendre, n'est-ce pas ? Même si c'est difficile. Je ne médite pas beaucoup les paroles de Satan, Vous serez heureux de savoir. Mais il y en a. Et tout au début, pensons à ce moment, qu'est-ce qu'il promettait à nos parents, nos premiers parents au départ ? Vous serez comme des dieux. Alors, ce n'est pas le cas, c'est un mensonge. On ne devrait pas être surpris. Mais dans ce mensonge, il y a quelque chose qui était tentant, si tentant que finalement, ils ont tous les deux succombé à la tentation et au péché. N'est-ce pas qu'on voudrait être comme des dieux, enfin souverains sur notre vie, enfin autonomes, enfin capables de faire tout ce que nous voulons ? Un rassemblement de pasteurs pour une conférence, le prédicateur mettait les autres en garde. Il disait, nous voudrions que le pasteur soit omniprésent, présent à toutes les activités, présent tout le temps, disponible tout le temps. Qu'il soit omniscient, qu'il sache tout, qu'il puisse tout comprendre, tout mystère. Et omnipotent, qu'il puisse tout résoudre, qu'il puisse régler tous les problèmes. Ce serait formidable. Attention, ça reviendrait en fait à prendre la place de Dieu. Nous ne pouvons pas être omniprésents, omniscients ou omnipotents. Il n'y a que Dieu qui peut l'être. Revoyons là où nous avons essayé de prendre la place de Dieu. Mais au contraire, si nous voyons Dieu comme souverain sur toutes circonstances, maître de tout, bon et puissant, alors on commence à voir nos échecs différemment. Parce que nos échecs ne sont pas irréversibles. Du bon peut en venir. Avant de regarder la suite, on va regarder un exemple plus récent de la souveraineté de Dieu. En Actes 16, on va maintenant dans le Nouveau Testament, Actes chapitre 16, et on va lire un peu ce qui s'est passé avec quelqu'un d'autre. Alors la ville s'appelle Philippe, mais l'homme qui prêchait s'appelait Paul. Je vous encourage à suivre cela. Actes 16, versets 19 à 24. On ne va pas tout comprendre, mais on va juste regarder un peu les réactions et le traitement que les gens ont fait subir à Paul. « Quand les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur gain, ils se sont emparés de Paul et Silas et les ont traînés sur la place publique devant les magistrats. Ils les ont présentés aux juges en disant « Ces hommes sèment le trouble dans notre ville. Ce sont des Juifs et ils annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis d'accepter ni de suivre à nous qui sommes Romains. » La foule s'est aussi soulevée contre eux, et les juges ont fait arracher leurs vêtements et ordonné qu'on les batte à coups de fouet. Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison, en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. » Alors oui, peut-être que vous connaissez la suite, mais on peut quand même constater le trouble, l'épreuve, la souffrance qui a été infligé sur ces gens, rejetés, battus, emprisonnés. Et puis quand ils sortent de la ville de Philippe, ils vont vers Thessalonique, au chapitre 17, verset 1. « Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, conformément à son habitude. Pendant trois sabbats, il discuta avec eux à partir des Écritures en expliquant et démontrant que le Messie devait souffrir et ressusciter. Ce Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Messie. Quelques-uns d'entre eux furent convaincus et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'un grand nombre de non-juifs qui craignaient Dieu et beaucoup de femmes importantes. Cependant, les Juifs restés incrédules prirent avec eux quelques vauriens qui traînaient sur les places, provoquèrent des attroupements et semèrent ainsi le trouble dans la ville. Puis ils se rendirent à la maison de Jason, et cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici, et Jason les a accueillis. Ils agissent tout comme les édits de l'empereur, tous contre l'édit de l'empereur, en prétendant qu'il y a un autre roi, Jésus. » Par ces paroles, ils troublèrent la foule et les magistrats, qui ne relâchèrent Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. On voit des hommes méchants. Une ville en émeute. Paul, prédicateur de l'Évangile, est poussé hors de la ville pour son propre bien, pour sa sécurité. C'est ses amis qui finalement les font partir de là, n'est-ce pas? Alors que penseriez-vous de cet effort d'évangélisation? Alors c'était comment? La semaine d'évangélisation à Thessalonique. Ça ne s'est pas bien passé. Le séjour missionnaire a été écourté. Globalement, la réponse dans la ville a été hostile. D'autres personnes ont été entraînées dans les hostilités et ont souffert aussi, Jason et les autres. Et les nouveaux convertis n'étaient pas sûrs que Paul était sincère. Il était parti comme ça, dans la nuit. Que penser de lui? C'est un échec cuisant. Pourtant, plus loin, nous lisons une autre perspective. En 1 Thessaloniciens, chapitre 2, donc, Paul écrit à cette même église, là où il était passé. Après qu'un peu de temps s'est écoulé, et il réfléchit à cette visite, la visite dont on vient de lire. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1. Vous savez vous-même, frères et sœurs, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et avoir été maltraités à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu à travers bien des combats. Pas sans résultat, pas en vain, pas une perte de temps, pas un échec de manière ultime, malgré la difficulté. Des personnes avaient suivi Jésus. Juste avant, au chapitre 2, au verset 9 et 10 du chapitre 1, il dit « Vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. » Quelque chose de profond s'était passé. Et on pourrait penser « Ah oui, mais c'était facile à l'époque, c'était des gens simples, c'était des idiots, les gens du premier siècle. » Mais non. On est en Grèce, et la Grèce, dans la Grèce, le Panthéon était quelque chose de bien établi. Tout le monde était adorateur de ces faux dieux, croyait que c'était les vrais dieux. Et donc, pour qu'ils puissent se détourner de cela, il a fallu quelque chose de fort, n'est-ce pas? Il y avait la philosophie grecque qui était là. Il y avait la situation morale qui était pitoyable dans le royaume, dans l'empire gréco-romain. Et pourtant, ils se sont détournés de cela pour suivre le Dieu vivant et vrai, pour attendre Jésus, son Fils, qui nous délivre de la colère à venir, la colère de Dieu, le jugement. Quelque chose de fort s'était passé, c'était devenu un sujet de reconnaissance pour Paul. Au verset 13 du chapitre 2, c'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment la parole de Dieu, agissant en vous qui croyez. Alors cela nous amène à trois leçons de vie quand nous rencontrons des échecs. Prenez une vue à long terme. Ce qui a changé, c'est que le temps s'est écoulé, n'est-ce pas? Dans le moment, ça paraît horrible. Et nous ne pouvons pas juste faire semblant que nos échecs sont des réussites. Mais on peut voir que Dieu donne du succès après l'échec. Comme ces Thessaloniciens, ils ont tenu bon dans la foi, malgré que Paul les avait quittés, malgré qu'ils n'avaient pas eu de nouvelles de Paul. Dieu les a gardés. Et très souvent, nous avons une vision à court terme, n'est-ce pas? Quel est votre horizon? Pensez à demain? On ne sait pas ce qui va arriver demain, bien sûr, mais on pense peut-être à cette semaine. Vous avez planifié votre semaine. Peut-être que vous réfléchissez déjà à Noël. Ceux qui sont les plus organisés parmi nous ont déjà leur agenda 2024. Déjà en train de noter des projets pour 2024. C'est bien. Mais ne voyez-vous pas qu'après que le temps soit passé, parfois il faut un an ou deux, avant de pouvoir vraiment évaluer quelque chose qui s'est passé. La relation qui s'est soldée par un échec, on l'a échappé belle. Où tu as raté tes études, mais maintenant tu as trouvé une autre voie et ça se passe beaucoup mieux. ou tu as perdu ton emploi, mais c'est à cause de cela que tu es maintenant dans un autre emploi et ça se passe beaucoup mieux. C'est plus intéressant. Parfois, il faut la perspective du temps pour revoir les choses. Paul arrive même à parler de Thessalonique, de Thessaloniciens en ces termes, à chapitre 2, verset 19. En effet, quelle est notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son retour? Jésus revient et Paul est rayonnant de joie. Il dit, voici ma couronne, regarde, ici il y a ces personnes-là à qui j'ai parlé à Thessalonique. Il a cru, eux sont venus, eux ont tenu bon. C'est une couronne que je vais te donner, Seigneur, pour ta gloire. Parce que je suis tellement réjoui par ce que tu as fait dans leur vie. Quelle joie! Alors pouvons-nous déjà réfléchir à ce qui aura de la valeur ce jour-là? Oui, il y aura des échecs, mais ce que nous aurons fait pour lui, ça restera. Et cela nous permettra au moins de minimiser nos regrets pour les échecs et de remercier Dieu pour nos succès. Mais il y a une autre leçon à prendre. Essayez d'en apprendre les leçons. Essayez d'apprendre les leçons de vos échecs. Mon père est quelqu'un de très sage, et quand j'avais fait quelque chose de stupide, il me posait toujours la même question. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ceci? Et je n'avais pas envie de réfléchir. Je n'avais pas envie de faire face à cela. Mais il faut réfléchir quand on a vécu des échecs. On ne peut pas défaire la situation comme par magie. Le portefeuille a été laissé sur le tram, où on n'a pas vu qu'il y avait une deuxième page de questions à l'interro, où on a acheté un truc à la brocante et ça ne fonctionne pas. Ce sont des échecs, d'accord? Mais il y a quelque chose à apprendre. Dans chaque circonstance, dans chaque échec, il y a quelque chose à apprendre. Nous avons appris déjà que nous ne sommes pas Dieu, et je pense que si nous réussissions à tous les coups, on deviendrait insupportable. Insupportable. Parce qu'on dirait, où est le problème? C'est facile. Moi, tout ce que je veux faire, j'ai réussi. Je suis sans difficulté pour moi. Et nous deviendrions orgueilleux. Alors Dieu a quelque part une tâche difficile avec nous. Alors attention, rien n'est difficile pour Dieu. D'accord? Il est infiniment sage. Mais c'est une tâche qui, pour nous, serait difficile. C'est de pouvoir équilibrer, on pourrait parler d'un dilemme, ce serait un dilemme pour nous, entre ce qu'il veut faire et ce qu'il veut aussi faire. Il veut pourvoir à nos besoins, mais il ne veut pas qu'on adore l'argent. Il veut qu'on ait assez d'argent, mais il ne veut pas qu'on soit en train de compter sur « Ah, regarde, j'ai de l'argent, je suis bien ». Il veut qu'on compte sur lui. Il veut nous utiliser à son service, mais il ne veut pas qu'on devienne orgueilleux. En disant, oh, regarde ce que j'ai fait, voilà, c'est formidable, moi je suis bien. Et donc, l'échec peut être sa façon de nous apprendre quelque chose. L'argent n'est pas une source fiable de mon espoir. Mes talents ne fonctionnent pas sans la puissance de Dieu. Je suis incapable. Toutes les leçons que nous n'allons pas apprendre, à moins de vivre un échec. Et si Dieu nous donnait chaque fois le succès, on n'apprendrait rien. Est-ce que nous voulons vraiment apprendre ça? Est-ce que nous voulons grandir dans notre relation à Dieu? Est-ce que nous voulons vraiment prier, et pas juste prier comme ça pour la forme, mais vraiment prier, vraiment compter sur lui, vraiment mettre à mort notre suffisance? Alors c'est l'échec qu'il nous faut. Dieu a décidé que c'est un bon moyen d'y arriver. Les échecs nous apprennent notre faiblesse. Or, Dieu peut nous utiliser. Les succès nous enseignent la grâce de Dieu. Le Seigneur peut gentiment nous inclure dans son œuvre. Et ça, c'est fantastique. Je vous suggère de regarder juste brièvement 2 Corinthiens, chapitre 12. Excusez-moi, il y a une petite faute. C'est le chapitre 12, 2 Corinthiens 12. Versets 7 à 10. Petit échec dans mon PowerPoint ce matin. Mais ce n'est pas en exprès. chapitre 12, verset 7 de 2 Corinthiens. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil, c'est Paul même qui a écrit aux Thessaloniciens, qui écrit, pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan pour me frapper, m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. On ne sait pas ce que c'était, mais c'était pénible. Paul s'est senti faible, vraiment faible. Et évidemment, il a prié que Dieu enlève cela, que Dieu change cela, qu'il le rétablisse à une bonne santé ou à sa force. Et Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Ça veut dire, tu ne vas pas recevoir plus que ma faveur. Je te donne ma grâce et c'est tout. Tu ne vas pas retrouver la santé ou ta force d'avant. Ah bon ? Ouais, tu vas rester faible, mais je t'utiliserai par ma puissance. Peut-être que ça peut vous aider d'imaginer ça un petit peu comme une balance. Alors la Bible ne parle pas généralement de balance, mais on a la façon dont nous pouvons être utilisables pour Dieu et notre orgueil. D'accord ? Nous pouvons être utilisés par Dieu si notre orgueil ne pèse pas trop lourd. On n'a pas beaucoup d'orgueil. Si nous avons beaucoup d'orgueil, nous ne pouvons pas vraiment être utilisés par Dieu. L'orgueil est l'ennemi numéro un, en quelque sorte, dans notre âme, pour Dieu. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Dieu nous utilise un petit peu et nous devenons orgueilleux. Nous disons, ah, mais je suis quand même pas mal à ça. Ouais, je suis bon, hein. Ouais, je suis quelqu'un d'utile dans le royaume de Dieu. Je pense que Dieu a besoin de moi. Et on devient de moins en moins capable d'être utilisé par Dieu. Dieu ne veut pas utiliser quelqu'un d'orgueilleux. Alors il charge des problèmes, des difficultés sur nous, des échecs. Il nous fait vivre des moments pénibles. Et ça devient lourd. Notre orgueil s'évanouit parce qu'on se dit, mais je ne peux pas y arriver, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Je ne peux plus compter sur mes ressources d'avant. Seigneur, aide-moi, s'il te plaît. Je dépends de toi. Et alors, oui, Dieu peut nous utiliser. Tu te sens affaibli, tu peux apprendre cette leçon. Dieu veut t'utiliser tel quel. Une jeune femme américaine s'est cassée le dos en faisant un plongeon dans un lac. Elle a survécu. Mais elle n'était plus jamais la même. Elle passe le restant de ses jours en chaise roulante. Elle a aujourd'hui 74 ans. Elle s'appelle Joni Erickson. Et lorsqu'elle était dans son lit d'hôpital, en train de s'ajuster à cet accident qu'elle avait eu, elle voulait mourir, mais elle ne pouvait pas mourir, elle ne pouvait pas se donner la mort. Alors elle a prié, « Dieu, si tu ne veux pas me laisser mourir, apprends-moi à vivre. » Et c'est ce qu'elle a fait, elle a appris à vivre. Et depuis lors, elle fait des choses remarquables. Elle apporte le message de l'Évangile au monde, mais surtout aux personnes ayant un handicap. Et pour les personnes qui la rencontrent, c'est d'autant plus puissant parce qu'elle vient vers eux en chaise roulante. Elle ne vient pas en soutenant, en disant « Ah, moi je vais bien. Alors toi, tu as un handicap ?» C'est pas la même chose. Dieu l'a utilisée par sa faiblesse, la faiblesse que Dieu lui a donnée. Dernière chose, je serai bref, mais c'est important. Quatrièmement, dernièrement, ne soyez pas paralysés par la peur. Si nous regardons en avant, nous imaginons que ça pourrait arriver à nouveau et ça semble risqué. Oh non, je ne vais pas à nouveau faire cela. On a vu ce qui s'est passé la dernière fois. Ça risque de ne pas marcher à nouveau. N'importe quel bon projet peut être freiné par nos échecs du passé. On ne veut pas répéter ça. Vous imaginez Paul, après l'emprisonnement et l'émeute à Philippe, vous auriez envie de dire, allez, prochain arrêt, Thessalonique. On remet ça. Pourtant, il l'a fait. Mais on se pose la question, et si ça ne fonctionne pas? Et si personne ne m'écoute? Et si je me retrouve sans amis? Ça pourrait mal se passer, n'est-ce pas? Dieu est souverain, il pourrait vouloir agir sur le long terme plutôt qu'à court terme. Il pourrait vouloir m'apprendre une leçon. On ne sait pas. Ce qu'on sait, par contre, c'est que Dieu est avec nous. Et il y a une conséquence majeure du fait que Dieu est avec nous, qui est répétée tout au long de la Bible lorsque Dieu dit qu'il est avec nous. N'ayez pas peur. Le psaume 56, verset 12. Je me confie en Dieu, je n'ai peur de rien, que peuvent me faire des hommes? Ou le psaume 118, verset 6. L'Éternel est pour moi, je n'ai peur de rien, que peuvent me faire les hommes? En fait, ils peuvent te faire beaucoup. Ils peuvent te faire beaucoup de dégâts. Ils peuvent te faire beaucoup de mal. Mais est-ce que je regarde aux hommes qui peuvent me faire du tort, ou est-ce que je regarde à Dieu? Il dit ceci à Jérémie, l'Éternel parle à Jérémie, chapitre 1. « N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer. » Alors mes amis, nous avons peur de perdre. Nous voulons garder ce que nous avons. La perte peut néanmoins venir subitement. Et nous ne sommes pas capables de garder ce que nous avons. C'est une réalité. Ça ne dépend pas de nous. Donc, il faut néanmoins se lancer. Il faut néanmoins entreprendre des choses pour Dieu. Les seuls qui n'ont jamais fait d'échec, n'ont jamais eu d'échec, ce sont ceux qui n'ont jamais rien fait. Quand on apprend à rouler à vélo, on apprend qu'avancer est moins stable et plus dangereux que juste de rester là à côté de son vélo, debout. Mais vous savez quoi? C'est aussi plus chouette d'avancer. Donc ce que nous faisons n'est pas de réinventer nos échecs et de dire en fait c'était quelque chose de chouette et de merveilleux. Non, mais nous apprenons qu'à travers les échecs et nos moments pénibles, nous ne sommes pas capables de tout faire, nous ne pouvons pas tout réussir, nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Mais Dieu est là, et avec Dieu, nous pouvons réellement servir à quelque chose. Nous pouvons servir à sa gloire, à son royaume, faire quelque chose d'éternel, qui ne sera pas en vain, mais qui a de la valeur. Alors pour cela, il faut de la foi, il faut de la confiance en Dieu, au lieu de la peur. Prions qu'il nous l'accorde. Seigneur, si nous regardons à notre passé ou peut-être notre présent, c'est vrai que nous pouvons être découragés, mais nous voulons regarder vers toi. Si toi tu es avec nous, si toi tu vas devant nous, nous n'avons rien à craindre, même pas l'échec. Oui, nous pourrions perdre des choses, nous pourrions vivre des moments difficiles, nous pourrions échouer dans certains de nos projets, mais toi tu vas avancer, ton progrès, ton royaume va progresser. Alors s'il te plaît Seigneur, donne-nous de croire en toi, de faire confiance pour les résultats, pour les fruits, et de ne pas nous laisser freiner par notre peur. Aide-nous à réfléchir chacune à nous-mêmes, à apprendre les leçons aussi du passé, et à surtout chercher à te plaire en toutes circonstances.